Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois,
on vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi 30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letamis.info.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Kaleidoscope 97 FM. Nous sommes dimanche 6 janvier 2019. Et oui, déjà, il est midi et demi et c'est le retour de Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant.
Et bonne année.
Bonne année.
Alors, on est très heureux de fêter la nouvelle année en reprenant le cycle d'émissions Micro-ondes. On commence même l'année 2019 avec des nouvelles têtes dans l'équipe. Alors, cette année, on retrouve Samia, Françoise, Yvon, Jeannette, et puis en nouvelle tête, il y a donc Charlotte et Idriss, moi-même, qui anime aujourd'hui pour la première fois. Alors, il faudra m'excuser si ça bug un peu. Alors, je vous rappelle que Micro-ondes, c'est tous les premiers dimanches du mois sur Kaleidoscope 97 FM, de midi et demi à 14h. Et puis en podcast, toutes les émissions sur le site letamis.info. Aujourd'hui, au programme de l'émission, on parlera articulation des luttes étudiantes et lycéennes sur fond de mouvement Gilets jaunes, en tentant d'apporter donc avec nos invités un éclairage sur les luttes qui sont un peu moins mises en avant. On a donc choisi de vous parler des luttes des lycéens et des étudiants qui tentent de stopper les nouvelles réformes du gouvernement avec en toile de fond le mouvement Gilets jaunes qui dure depuis 2 mois maintenant et à côté duquel il a été difficile de passer à côté. Sur le plateau aujourd'hui, on a donc des étudiants, lycéens, lycéennes, syndiqués ou non, gilets jaunes et parfois tout à la fois. On a 1h30 d'émission devant nous, 1 heure de plateau avec nos invités, puis on aura quelques brèves et on finira par l'agenda des luttes. On revient au plateau dans 5 minutes et je vous présenterai les invités, mais avant ça, on a normalement une interview avec Mathieu qu'on a au téléphone, Mathieu de Briançon, qui vient nous parler de la situation dans les Hautes-Alpes et à la frontière franco-italienne.
Alors, la question est qu'on avait un problème de liaison téléphonique avec Mathieu. Est-ce qu'on l'a là? Je vais commencer à présenter les choses. Comme prévu d'ailleurs avec Mathieu, et puis on verra d'ici 2 minutes si on a pu le joindre au téléphone. C'est lui qui nous appelle, hein. Mathieu, si tu nous entends, réessaye. On a des petits soucis. Donc Mathieu, c'est quelqu'un qui est à Briançon et qui est témoin depuis pas mal de temps du sort réservé à la frontière italienne aux migrants et migrantes qui sont harcelés et souvent maltraités par la police. Ça va jusqu'à la police qui leur pique l'argent qu'ils ont dans les poches. Et quand je parle de police, c'est la police des frontières et d'autre part la gendarmerie. Et comme si ça ne suffisait pas, au mois d'avril, il y a un groupe fasciste, Génération Identitaire, qui s'est installé avec des grands moyens à la frontière italienne, les moyens hélicoptères, 4x4, etc., pour aider la police à protéger nos frontières nationales. Donc gros moyens et bienveillance de la police. Et pour réagir à cette installation des milices fascistes, des militants solidaires ont organisé à la frontière une marche à laquelle se sont joints pas mal de migrants et migrantes. Résultat, à l'arrivée à Briançon, la police a interpellé un certain nombre de personnes, dont 7 ont été jugées et récemment condamnées jusqu'à de la prison ferme pour, ils font appel, mais quand même, pour ces délits de solidarité. Bon, si on n'a pas Mathieu, ce que je vais dire à sa place, puisqu'on se connaît un tout petit peu, c'est que actuellement la situation est toujours aussi grave entre la police qui empêche les migrants, et ça c'est illégal, de pénétrer sur le territoire français. Les mineurs ont le droit de pénétrer, ça c'est un droit imprescriptible, mais même les majeurs, ils ont le droit de déposer un dossier de demande d'asile, ce qu'on les empêche de faire. Et comment on les empêche de faire? Ils sont dans l'hiver en train d'essayer de passer la frontière, certains, pour éviter la police, ont des pieds ou les mains gelées, et il y a eu déjà 4 morts l'hiver dernier. Et une fois qu'ils ont traversé la frontière, il y a encore ce harcèlement policier qui est permanent. Voilà. Sans parler des migrants qui, eux, sont également harcelés, on peut dire, par la police, puisque la semaine prochaine, la semaine qui vient, on a encore deux personnes, en plus des sept, qui sont inculpées. Et donc, il y a un procès jeudi 10 janvier à 8h30 à Gap. Et donc, il y a un appel des soutiens à venir, à venir soutenir justement les gens qui sont inculpés. Voilà. Et donc, bienvenue à tous les soutiens qui viendront jeudi prochain, jeudi donc 10 janvier. Vous trouverez tous les renseignements sur Facebook HDR05. Et le thème principal sera pas seulement le soutien aux migrants, mais ce sera aussi la lutte contre la protestation contre les violences policières qui sont permanentes. Voilà.
Merci.
Est-ce qu'on a pu avoir Mathieu? Non. On l'a pas. Alors désolé Mathieu si tu nous écoutes, hein. On a un petit souci.
Mais je crois que l'information est passée.
On retentera le mois prochain parce que c'est sûr il y aura des nouvelles.
Alors, merci Yvon. Donc je vous disais aujourd'hui on a des étudiants, étudiantes, lycéennes et gilets jaunes avec nous. Donc on a Marine qui est lycéenne.
Bonjour.
Clémentine, étudiante syndiquée et gilet jaune.
Bonjour.
Jean-Loup, étudiant également syndiqué à Solidaires et Gilets jaunes.
Bonjour.
Et Vincent, éducateur spécialisé qui a rejoint également les Gilets jaunes depuis à peu près un mois.
Bonjour.
Alors, on va commencer avec Marine dans une toute petite minute. On démarre d'abord avec un court montage qui explique la réforme qui touche actuellement les lycées.
Du bac et du lycée général et technologique, elle s'inscrit dans ce qui a été initié avec Parcoursup l'an dernier en fait. C'est une individualisation du lycéen. En fait, le lycéen devient auto-entrepreneur de son parcours. C'est la fin des filières. Chaque élève va choisir les enseignements de spécialité qu'il souhaite étudier. En même temps, c'est la casse du cadrage national du bac, puisqu'on instaure 40% de contrôle continu dans la validation du bac. Ce qui, du coup, donne du pouvoir aux établissements et crée des inégalités de territoire. Et par ailleurs, on sélectionne socialement encore plus, peut-être encore plus qu'avant. D'abord avec, par exemple, l'enseignement des langues qui est diminué et qui, du coup, nécessite un effort financier si on veut combler le manque et qui, du coup, discrimine. Et puis, il y a cette question aussi de l'accès aux études supérieures qui passe avec... Enfin, Parcoursup qui va considérer des attendus pour une licence qui sera la licence que choisirait. Et ces attendus, en fait, ce sont les enseignements de spécialité. Du coup, c'est ce qui veut dire que, en fait, la sélection, elle se passe bien en classe de 3e quand il faut choisir le lycée dans lequel on va étudier.
Marine ?
Bonjour.
Et toi, t'es impliquée dans la lutte ? Et tu avais plein de trucs à dire sur le sujet. Et...
Oui, du coup, moi, en fait, je suis lycéenne donc, sur Grenoble. Et j'ai observé, en fait, le début de la lutte lycéenne. Donc, après le début du mouvement Gilets jaunes, puisque c'est ça qui a lancé les étudiants et lycéens un peu cette année. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Et du coup, j'ai vu le début de la lutte lycéenne, en fait, se créer de manière extérieure. Et quand j'ai vu que ça commence à prendre de l'ampleur, bah, je me suis un peu plus impliquée et intéressée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu plat en ce moment, mais...
Hop, on est désolé, les téléphones, on éteint. Ah,
c'est Mathieu qui essaye de nous appeler, mais...
Donc oui, c'est vrai que c'est un mouvement qui est parti assez fort, avec de grosses actions quand même par les lycéens, donc avec des blocages, etc., qui ont tenu pendant une bonne semaine. Mais c'est vrai qu'on voit que la lutte, elle s'est rapidement essoufflée quand même, malheureusement, parce que les établissements bloquent les élèves, etc., que la plupart des nouveaux des lycéens, en fait, sont jeunes et connaissent pas la lutte et se retrouvent dans un système... ils bloquent des établissements, mais ils savent pas que bloquer, c'est illégal, donc ils prennent peur et ils ont pas envie non plus de tout rater. Puis on a des élèves qui comprennent pas pourquoi d'autres luttent et bloquent et essayent d'obtenir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont droit d'avoir, quoi. Donc des droits comme toutes les réformes qu'on a vues avant, qui sont pas acceptables pour des lycéens, hein, c'est le pignon G. Et c'est vrai qu'en fait, on constate un conflit interne en fait, au sein des lycéens, puisqu'il y a ceux qui veulent des améliorations et il y a ceux qui ne se sentent pas concernés, qui n'ont pas l'impression que ça va les toucher et que ça a un impact sur ce qui se passe.
Alors, à quel endroit, toi, ça te touche, du coup, cette réforme ?
Ça me touche dans le sens où moi j'ai mon bac cette année, donc la réforme du bac, si j'ai le bac cette année, ne me touchera pas, mais je vois toutes les réformes d'après, moi je me sens plus concernée par les réformes étudiantes, et oui, la sélection à la fac et toutes ces choses là c'est des choses qui nous touchent, parce que comme j'essaie d'expliquer avec des lycéens avec qui je discute, c'est avoir le bac c'est une chose, c'est bien, mais si on peut pas avoir les filières qu'on veut après, on n'avancera pas. Si on ne peut pas faire les études qu'on souhaite, parce que on est trié, parce qu'il faut payer, parce que non, ça ne pourra pas fonctionner. Et un diplôme, si on ne peut pas poursuivre, c'est pas utile. Ou peu.
Et comment ça s'est passé pour toi exactement quand tu es entré dans cette lutte ? Parce que tu disais hors antenne que tu n'es pas arrivé tout de suite. Mais comment est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Et ce que tu as vu dans le mouvement, dans les manifs, dans les AG ?
Je suis militante d'avant. Et c'est vrai que j'ai voulu voir comment le mouvement se créait, si ça fonctionnait ou pas. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, mais que lors des manifestations, il y avait beaucoup de problèmes, puisque les manifestants, c'est des jeunes de 15 ans qui découvrent, qui ne savent pas ce qu'ils risquent, qui se retrouvent face aux forces de l'ordre, qui se retrouvent, c'est la cohue, ça bouge dans tous les sens, ça crie. Ils ne savent pas trop comment ça marche, on rate les cours, les proviseurs sont assez virulents parfois et ça leur fait peur. Moi, c'est vrai que j'ai essayé de... quand j'ai vu que ça se passait comme ça, comme j'ai un petit peu d'expérience là-dedans, je me suis concentrée sur le médic en manif et de l'anti-rep, parce que c'est ce qui semblait important à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que j'ai essayé de former quand même un maximum de jeunes de mon lycée qui étaient militants et qui voulaient le devenir. Et après, on a la chance d'avoir pu tenir des AG au sein de notre établissement pour voter les blocages avec l'autorisation de notre proviseur. Et c'est quelque chose qui était vraiment génial parce que ça permettait un dialogue en fait entre les professeurs et les lycéens, et entre lycéens aussi, entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre les blocages. Et ça permettait en fait d'expliquer aux gens pourquoi on faisait ça et que si ça avait un intérêt. Et c'est vrai que ça permet un dialogue et d'apaiser les tensions, en fait, que ce soit avec le personnel de l'établissement ou avec les autres étudiants.
Et du coup, tu as utilisé deux termes qu'on connaît bien si on est habitué aux manifestations, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous nos auditeurs, auditrices, qui sont street medic et anti-rep. Est-ce que tu peux un peu expliquer et, si tu veux bien, nous dire comment toi, tu as acquis ces compétences-là ?
D'accord. Pour ce qui est street medic, du coup, c'est vrai que... Comme il y a souvent des blessés, les gazages, les coups de matraque, les coups de flashball qu'on a pu voir sur ces dernières manifestations, c'était compliqué d'avoir les secours à proximité, donc il fallait des personnes pour soigner les gens, les sortir du gaz et essayer de les amener en lieu sûr et les aider psychologiquement et physiquement, parce que c'est pas des moments toujours très faciles à vivre, même si on est engagé depuis un moment. Et pour ce qui est de l'anti-rep, c'est tracter dans les établissements, expliquer comment ça fonctionne, si on a affaire à la police, comment agir, qu'est-ce qu'on risque, etc. Et c'est des choses qui sont importantes à savoir, en fait, parce que lutter, c'est très très bien, mais c'est bien de savoir aussi où on va. Parce que quand on se retrouve face à des étudiants qui disent « ouais, mais on bloque et c'est bien », oui, c'est bien, mais apprends que si le directeur veut se retourner contre toi, il est en droit de le faire, puisque ce que tu fais, c'est illégal. Donc sache-le, quoi. Et c'est des choses qui sont importantes à faire. Et moi, c'est des choses que j'ai apprises par des amis militants qui m'ont formée. On a eu une formation sur les deux sujets, donc street medic et anti-rep au 38, qui a été faite par d'autres militants. Et c'était vraiment avec plein de documents, etc. Et c'était ouvert à tous et ça apporte beaucoup de connaissances.
Et effectivement, la question des street medic et de l'anti-rep, dans toutes les mobilisations, c'est la question qui se pose. C'est pour ça qu'on disait que dans le milieu militant, en tout cas dans les réseaux militants, c'est des termes qu'on connaît bien, effectivement, malheureusement. Et du coup, on va peut-être écouter un petit montage sur la répression qui s'est abattue notamment à Mantes-la-Jolie, avec une réaction tout de suite enchaînée par une réaction de Fatima Wasak.
Fatima Wasak, rapidement, c'est une personne qui a lancé le collectif Front des Mères avec Diaratou Kébé en 2017. Juste, elle dénonce l'inégalité des conditions d'enseignement dans les quartiers populaires. Donc, toute sa lutte, elle est basée sur les injustices subies dans les quartiers populaires. Donc, voilà, pour resituer.
Mantes-la-Jolie, jeudi 6 décembre.
Voilà une classe qui se tient sage.
Alors, ils ont jamais vu ça.
Dans la tête, on regarde droit devant.
Ça symbolisait toute la répression que l'on subit dans les quartiers populaires. Donc, tout à coup, il y avait comme ça un symbole spectaculaire, quoi, enfin, infâme sur les écrans. Et évidemment que tous les parents des quartiers populaires, tous les jeunes des quartiers populaires se sont identifiés.
Alors, ce montage où on entend effectivement les paroles des policiers au moment où on a vu ces images des lycéens agenouillés devant les policiers, enfin par les policiers, à Mantes-la-Jolie, et puis la réaction de Fatima Ouassak par rapport à la question de la répression. Parce que ce qu'on disait juste avant, c'est que la répression, ça touche tous les mouvements sociaux. Mantes-la-Jolie, on a vu que ça avait fait réagir les lycéens et les lycéennes et les étudiants au niveau national avec la reproduction de ce qui s'était passé à Mantes-la-Jolie, symboliquement, la mise à genoux dans les rues. Ça, c'est quelque chose qui a marqué ce début d'année sociale, cette répression à Mantes-la-Jolie. Est-ce qu'il y a une réaction là-dessus, du côté étudiant ou lycéen ou gilet jaune, sur cette répression?
Bonjour, moi c'est Jean-Loup, l'étudiant. alors du coup, oui, ben c'est vrai que c'est surprenant. La violence avec laquelle ces policiers ont agi sur ces lycéens, ça nous a aussi beaucoup touchés dans les AG étudiantes quand c'était abordé. Parce qu'effectivement, d'un point de vue symbolique, il y a quelque chose qui fait vraiment penser à ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc. C'est-à-dire on nous en met plein la gueule, si j'ose dire, pour un peu dégoûter les jeunes, les étudiants, les lycéens de la lutte en nous faisant peur, tout simplement. C'est ça aussi un régime policier. Et les mobilisations lycéennes et étudiantes, elles durent depuis un certain temps parce que le processus de destruction de ces services publics, maintenant, il a une longue histoire. Et à chaque fois, il y a une mobilisation lycéenne et étudiante et à chaque fois, la répression est plus violente.
Côté Gilets jaunes, sur le site, j'ai vu qu'il y a aussi, en tout cas sur le site Facebook, les nombreux sites Facebook, il y a eu pas mal de réactions aussi à cette violence. Et surtout, je crois que vous avez aussi un taux de violence sur la lutte gilets jaunes qui s'est amplifié. Et du coup, beaucoup de débats en ce moment sur la question de la violence. Est-ce que tu peux nous en parler, Vincent?
Oui, alors donc moi, c'est Vincent, le gilet jaune. Oui, la violence policière pose question dans tous les mouvements sociaux, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, on a pu remarquer que ce qui est compliqué, c'est que la violence semble être le seul moyen, entre guillemets, d'être entendu. C'est-à-dire que les gilets jaunes ont, suite au mouvement violent de début décembre, commencé à avoir une aura plus importante et que le gouvernement semble jouer un jeu, et les médias également, avec cette question de la violence. Ce qui est compliqué, c'est que la violence fait aussi partie de l'injustice qu'on ressent. Dans le sens où il y a eu une impression, en tout cas, peut-être du grand public, que les casseurs ont pu faire ce qu'ils voulaient dans les premiers rassemblements sur Paris. Et que suite à cela, la violence policière s'est un petit peu déchaînée sur tout le monde, sur tous les gilets jaunes, peu importe ce qu'ils aient fait. À partir du moment où ils se trouvaient là au mauvais moment, ça a entraîné des, on peut appeler ça des bavures parfois, de violence voilà, inqualifiable de la part des forces de l'ordre. Maintenant, il faut garder raison garder justement pour trouver des façons de pouvoir manifester en se mettant peut-être à distance de cette répression policière, même si à un moment on sait qu'on se retrouve face aux forces de l'ordre.
Est-ce qu'on peut vraiment se mettre à distance, en fait ? Moi, c'est ma question. Enfin, peut-être sur la question de la violence. On a vu justement de la violence policière dans les quartiers populaires pendant des années et ça choquait personne. On connaît la violence et les répressions policières sur chaque mouvement social depuis des années. Ils sont à chaque fois sévèrement réprimés. On voit l'évolution aussi des armes. Enfin, moi, je trouve que... On parle de grenades dans lesquelles il y a de la TNT, enfin, c'est quand même dingue. On voit des tirs de flashball direct dans la face. Il y a des, sur les gilets jaunes, vous avez, moi j'ai vu une affiche de je ne sais pas combien de blessés avec des mains arrachées. On a vu des vidéos sur le site, sur le net qui circulent sur notamment des lycées, notamment encore plus violemment réprimés, mais tout ce qui est lycée, de quartiers populaires où il y avait une répression... policières avec des matraquages hyper forts. Et, enfin, moi, j'aimerais qu'on se pose en tant que soit militant engagé dans des luttes pour la justice, cette question de cette violence. Et, parce que là, on la retourne encore sur la violence qui viendrait de nous ou d'un casseur. La violence, elle est sociale et elle est policière, quoi, en fait. Je m'invite au débat, j'anime plus, désolée, mais...
sur cette question, justement... bon, moi je suis étudiante et c'est vrai que c'est une violence qu'on a eu l'habitude de voir dans les mouvements, rien que les mouvements par exemple de l'année dernière contre la sélection et contre Parcoursup. C'est une violence aussi qui est invisibilisée, c'est important, c'est pour ça que c'est important toujours d'en reparler parce que par exemple, ne serait-ce que le président de l'université, sa stratégie actuelle, ça va être de faire comme par exemple comme si de rien n'était. C'est aussi parfois un petit peu ce que font, je sais pas, les présidents aussi de lycée. C'est pour ça que c'est important d'en parler, là aussi la convergence peut se faire, de lutter ensemble contre cette violence. Et c'est ce qui a pu se faire au niveau entre les gilets jaunes et un petit peu les lycéens, quand il y a les lycées qui ont commencé à bloquer, alors je crois que c'était, ça devait être début décembre, ou juste un petit peu avant, il y a eu quelque chose de pas mal qui s'est passé, c'est que les lycéens sont descendus dans la rue. Nous, avec les étudiants, donc on a essayé de rassembler un petit peu les étudiants. C'était le début aussi pour nous. Parce qu'il y a eu la lutte qui a commencé aussi contre la hausse des frais d'inscription vis-à-vis des étudiants étrangers, dont on pourra reparler tout à l'heure. Et du coup, les lycéens sont descendus dans la rue. Et ce qui s'est passé, c'est que les Gilets jaunes ont aussi un petit peu discuté entre eux et de se dire, mais ces personnes qui manifestent et qui luttent pour leurs droits aussi... et qui sont aussi peut-être un petit peu nos enfants, est-ce qu'on va les laisser juste comme ça aller se faire casser la gueule, en fait ? Et ben non, la réponse évidente est non. Et c'est pour ça que pendant plusieurs jours, c'est organisé un petit peu, justement, on parlait tout à l'heure de street medic. Enfin, les gilets jaunes, ils appellent pas forcément comme ça, ils connaissent pas forcément cette terminologie-là, mais en tout cas des équipes de soutien et médicales aussi, qui s'est formée autour pour aider les lycéens. C'est-à-dire que les gilets jaunes et les lycéens ont été manifestés ensemble. Et quand c'est devenu un petit peu chaud et que pas forcément non plus toutes les personnes voulaient se retrouver au milieu des lacrymos dans une violence qui est vraiment déchaînée, c'est vrai qu'on sait aussi que, on pense aussi que par exemple, les lacrymogènes sont de plus en plus dosés. On l'a bien ressenti ces jours-ci. Et quand il s'est passé ça, du coup, quand il y avait des lycéens, par exemple, qui devaient sortir du gaz, etc., il y avait des personnes gilets jaunes pour les aider. Et c'était pas toujours hyper forcément bien organisé non plus. C'était un petit peu la cohue, forcément. Mais on a quand même senti un soutien assez fort. Et nous, du coup, entre étudiants, gilets jaunes, lycéens, c'était un petit peu assuré cette coordination, cette convergence-là. Et elle a déjà pu se faire. Je trouve que c'est quelque chose d'assez beau de se battre contre la violence, justement, par ce moyen-là, contre la répression. Et c'est pas forcément être violent nous-mêmes ou pas, c'est des choix après qui sont peut-être aussi stratégiques à voir dans les mouvements. Mais c'est déjà se battre contre la violence et montrer quand même qu'elle est là.
Après, c'est vrai que toutes les violences qu'on a pu constater, c'est des choses qui sont... logiquement sont graves parce qu'on a affaire à des personnes qui sont armées, qui sont protégées par l'État, qui sont protégées physiquement parce qu'elles ont l'équipement qu'il faut et qui s'attaquent à des gens qui sont là pour essayer de, de faire respecter leurs droits, en fait, de se faire respecter, comme paraît logique, et qui se font complètement écraser parce que ben il faut pas non plus que ça se voit trop. Et moi, malheureusement, j'ai été une victime en dehors des manifestations de ces violences policières. Donc j'ai eu droit une agression physique au cou, à des coups de matraque et à agression sexuelle, puisque avant même d'être attaqué, ils ont commencé à vouloir me fouiller. Donc deux baqueux en civil, oui, mais qui exerçaient
voilà, merci, pouvoir, voilà.
Et qui se sont permis de me demander de faire un contrôle d'identité et de commencer à me fouiller sans mon autorisation, sachant que c'était deux hommes et que j'étais en jupe et les mains directement sous la jupe, et que le fait que je demande d'être fouillée par une femme leur a moyennement plu, donc j'ai eu le droit d'être agressée physiquement à coups de tonfa. C'était assez agréable un vendredi soir à 19h en dehors des luttes, sachant que j'étais même pas dans le mouvement qui s'était lancé quelques heures avant. Donc on voit quand même que ces violences, elles sont là face aux manifestants. Et même si moi je suis militante, à ce moment-là, je ne l'étais pas. J'étais là en tant que civile et ils s'en prennent à des gens qui passent parce qu'ils sont énervés. Et ils s'en prennent aux premières personnes qu'ils croisent et sur qui ils peuvent se défouler, en fait. Parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi à ce moment-là, qui passaient juste et qui sont passées au mauvais moment, qui n'avaient rien à voir avec le mouvement, qui n'étaient peut-être même pas au courant de ce qui se passait et qui se sont fait taper, qui se sont fait embarquer, qui se sont fait humilier et insulter. Et c'est pas quelque chose qu'on peut accepter, quoi.
D'ailleurs, rapidement, ça me fait un peu penser au 17 novembre, le premier jour de mobilisation massif des Gilets jaunes, où la plupart des participants et des participantes s'attendaient pas vraiment à une grosse répression policière. La plupart des gens avaient encore, pour la majorité, confiance dans les forces de l'ordre, parce qu'en fait, ils n'avaient pas, pour beaucoup, eu l'occasion de se la prendre dans la tête. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand la police a chargé, face à eux, il y avait des gilets jaunes qui, a priori, ne comptaient pas riposter plus que ça, puisqu'ils avaient confiance dans la police, qui ne s'en est pas prié pour les chasser très violemment, alors que pendant toute la journée, les deux gilets jaunes et la force de l'ordre, ça avait plus ou moins coexisté pacifiquement. Mais dès que l'ordre est tombé, les policiers n'ont pas reculé une seconde et se sont particulièrement déchaînés sur un gilet jaune qui était avec ses deux chiens, qui était par ailleurs une personne à la rue. Et c'est sur cette personne-là qu'ils se sont le plus déchaînés, et notamment sur les chiens. Ce qui montre bien que toute impression qu'on peut avoir de discussion avec un policier individuellement, de se dire ils sont pas si méchants, etc. Peut-être, mais c'est pas la question. En tant que corps, quand ils ont un ordre, leur formation, c'est d'obéir sans discuter, et même parfois avec un zèle et une violence qui peuvent envoyer des gens à l'hôpital. Et du coup, je pense qu'il faut... On peut avoir un ami policier, on s'en fiche, ça c'est de l'individuel, mais par contre on ne peut plus, quand on est militant, aimer la police.
En effet, là est le problème. Souvent, la police, lorsqu'ils agissent, ils partent sur des ordres et on a l'impression que parfois, ils se défoulent. C'est-à-dire qu'ils ont retenu un peu toute cette agressivité pendant toute une journée et au moment où ils ont l'ordre, ça y est, ils y vont plein pot, peu importe qui se trouve en face, peu importe ce qui a été fait avant par telle ou telle personne. Voilà, il n'y a plus de discernement. Et là, il ne faut pas se trouver sur le chemin, parce que dans ce cas-là, on s'en prend beaucoup. Eux, ils sont protégés, armés, entraînés. En effet, les gilets jaunes n'ont sûrement pas compris dans les premiers temps ce qui leur arrivait. Eux n'étaient pas préparés, n'avaient pas l'habitude de militer, n'avaient pas l'habitude de la répression policière. Et certains ont été estropiés, blessés, des mains arrachées. Enfin, voilà, il y a eu des drames, déjà, par ce mouvement et par cette répression policière. Maintenant, comment en sortir ? Comment trouver une solution de se mettre à distance, en effet, de cette violence policière? C'est compliqué. Moi, je prône réellement la non-violence, c'est-à-dire quand la police charge, reculer, ne pas chercher l'affrontement. Maintenant, à un moment ou à un autre, on est bien obligé de défendre nos droits, de défendre nos revendications. On a le droit de les exprimer, on a le droit de manifester. Comment le faire sans violence? C'est une question que tous les mouvements sociaux se posent. Tout mouvement révolutionnaire a cette question de la violence, de la non-violence. Il y a d'ailleurs eu une conférence à Tolbiac en mai 2018 pour fêter le cinquantenaire de mai 68 avec Frédéric Lordon et Bernard Friot qui étaient sur la révolution. Donc, et cette question de la violence à travers les mouvements sociaux a été posée. Et je vous invite donc à écouter cette conférence qui est très, très enrichissante de ce côté-là.
Oui, puis on pourrait aussi aborder la violence. C'est pour ça qu'on vous a mis un extrait. On choisit de Fatima Wassak aujourd'hui. On pourrait aussi aborder la violence différenciée. Parce qu'il y a la violence sur les mouvements sociaux, mais il y a la violence policière qui est là, présente et de manière différente selon qu'on est né dans un quartier populaire ou pas, selon la couleur de peau qu'on a. Bon, alors là, sur le plateau, soyons clairs, on n'est que des Blancs. Et c'est pas nous qui allons parler de ça comme ça aujourd'hui. En tout cas, juste, ça fait aussi partie des débat dans la violence qu'on pourrait avoir un débat entier sur la question de la violence et la manière dont elle s'abat de manière différenciée sur les gens. Voilà. Et du coup, on va peut-être enchaîner, parce que là, on va enchaîner sur un reportage.
Ouais, on va rebondir sur ce que Jean-Loup ouais. disait, le fait que la violence policière, elle est aussi le résultat d'une violence sociale. Et justement, on a un petit montage qui nous parle des inégalités de traitement, notamment en lien avec la réforme de l'université sur laquelle on reviendra juste après.
On va pas se laisser faire. Bah, en fait, là, on manifeste entre plusieurs milieux de lutte, parce qu'on est tous victimes à un moment ou à un autre des politiques de Macron. Du coup, là, enfin, moi, je suis étudiante, je me suis joint aux lycéens, je suis à la base militante féministe. On s'est d'abord battu pour la section à l'université, maintenant c'est les lycéens qui se battent, donc en fait c'est logique qu'on les rejoigne. En fait on est tous ensemble, on n'a aucun intérêt à commencer à se diviser dès maintenant, alors forcément la convergence des luttes c'est bien. On a quand même certaines divergences, mais c'est pas le moment de les mettre en avant, et peu importe en fait qu'on soit pas d'accord sur tout, en fait on est victime de la même chose, donc on va se battre ensemble jusqu'à temps qu'on gagne en fait. On espère gagner tout ce qu'on a demandé dans nos revendications. Enfin, du coup, c'est les revendications des lycéens, c'est les revendications des gilets jaunes, c'est nos revendications à nous. La sélection à l'université, c'est un scandale. La hausse des frais d'inscription pour les étudiants non européens, c'est raciste. Et en fait, toutes ces lois-là, on n'a aucun intérêt à les accepter, toutes ces réformes. En fait, c'est maintenant qu'il faut lutter. La hausse des frais d'inscription, ça c'est censé passer le 20 janvier. Du coup, si on ne se mobilise pas maintenant, en fait, ça sera foutu et on va se retrouver dans une fac élitiste avec que des blancs riches et d'une certaine classe sociale, quoi. Et c'est pas normal. On est nombreux à venir des classes pas favorisées. Tous les gens qui viennent de quartiers. Moi, à la base, je viens d'un quartier. Je me bats pour rester à l'université. Je me bats pour que ma petite sœur puisse aller à l'université. Les lycéens, c'est pareil. Les salariés, c'est pareil. On a tous nos revendications, c'est le moment de les unir, quoi.
En ce moment, en tant que maman, je suis très, très angoissée, évidemment. Je suis très inquiète pour l'avenir de nos enfants, de mes enfants en particulier. Voilà, par rapport au sort qu'on leur réserve, au fait qu'on veut les trier par rapport à qui ils sont, par rapport au quartier où ils habitent. Le fait qu'on cherche à les discriminer, qu'on cherche à les orienter, notamment pour les enfants des quartiers populaires, comme les miens par exemple, on cherche à les orienter vers des filières professionnelles courtes comme les BEP et les CAP.
Donc on a entendu dans ce petit montage, notamment la lutte à l'université, elle s'organise sur la base de la lutte contre les inégalités, et donc quelque part sur la lutte contre des systèmes de domination. Là on parlait d'inégalités sociales, et du coup les inégalités d'accès à l'université, mais aussi du racisme qui transparaît à travers la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Du coup, on sent que cette question, elle est un peu centrale dans le mouvement étudiant. Pareil dans le mouvement lycéen, parce que Marine, tu disais qu'effectivement, il y a l'inquiétude de ne pas pouvoir accéder, selon d'où on vient, à l'université. Et c'est peut-être une question qu'on sent un peu moins centrale dans le mouvement des Gilets jaunes, cette lutte contre les inégalités, ou en tout cas qui transparaît moins, au premier abord, dans les discours qu'on entend. Alors, est-ce que peut-être Jean-Loup, comme tu es un peu les deux étudiants syndiqués et Gilets jaunes ou Clémentine, tous les deux qui êtes dans les deux mouvements, comment vous arrivez à concilier ces deux formes de discours, à la fois le discours de lutte contre les inégalités et les rapports de domination, et un mouvement dans lequel ça semble un peu moins central que dans le mouvement étudiant ?
Bah, pour répondre un petit peu rapidement, je pense pas que la question soit forcément moins centrale. En tout cas dans le mouvement des Gilets jaunes, en ce qui concerne les inégalités sociales, c'est même l'une des questions vraiment, vraiment centrales. La plupart des gens à qui on parle rapidement, même juste 5 minutes, sont vraiment conscients et se battent vraiment contre ça. C'est-à-dire qu'on a souvent aussi on a des personnes, par exemple, de quartiers populaires aussi, alors qui ne correspondent pas forcément même au profil qu'on a l'habitude de voir de jeunes ou quoi. On a des personnes qui font partie de familles qui doivent aussi voir ce qui peut se passer pour leurs enfants, etc. et qui s'inquiètent, qui sont très inquiets, et, ou des personnes qui sont précaires, qui doivent cumuler soit plusieurs jobs pour pouvoir un petit peu finir les fins de mois, pour pouvoir relier les deux bouts. Donc la question des inégalités sociales, elle a très vite surgi dans le mouvement des Gilets jaunes. Je ne suis pas sûre qu'on puisse forcément opposer cela après. C'est vrai que c'est un mouvement qui est un petit peu atypique parce que, par exemple, voilà, il ne part pas forcément des universités, il ne part pas des facs ou d'endroits qu'on a l'habitude. Donc forcément, la question des étudiants, ce n'est peut-être pas la première qui vont se poser. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on pose cette question-là, par exemple, en Assemblée générale, ils vont se dire « mais oui, mais c'est vrai que c'est révoltant ». Et la question des frais d'inscription sur les... la hausse des frais d'inscription en ce qui concerne les étudiants étrangers hors Union européenne, donc pour rappel, hein, qui vont passer de par exemple 170 euros pour un accès normal en licence à 2770 euros, 3770 euros pour un accès en master et pareil 4770 euros pour un accès en doctorat. C'est quelque chose qui révolte évidemment n'importe qui, ça fait appel même, je pense, au bon sens un peu commun et à l'évidence. Après, il n'y a pas eu que ça. Par exemple, la question des inégalités ce qui concerne le logement ou l'accès à, tout simplement au restaurant universitaire, à toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément, les plus évidentes non plus. Mais c'est vrai que dès qu'on a commencé à en parler avec les Gilets jaunes, ils se sont dit si, en fait... c'est quelque chose aussi auquel on peut faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi une convergence là-dessus. On a eu des Gilets jaunes qui sont venus avec nous, avec des étudiants, pour faire des restaurants, ce qu'on appelle des restaurants gratuits, donc aller dans des petits restaurants et universitaires, et faire manger gratuitement des étudiants pendant quelques temps. Donc, puisqu'on sait que c'est aussi la privatisation de plus en plus des CROUS, des restaurants universitaires, etc., qui font monter les prix. Donc, la question de la privatisation ou de même des entreprises qui ne payent pas leurs impôts, ce genre de choses, c'est des choses assez centrales dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est la question de l'injustice, tout bêtement. L'injustice au sens général, et c'est vraiment un sens premier économique, social qui est vraiment très présent.
Je confirme en effet, cette question des solidarités est présente depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, je pense que les médias ne s'en sont pas emparés au départ. Ça n'a pas été relayé, en fait, à travers les médias. Je vais reprendre tout simplement une liste de Gilets jaunes qui a été elle-même reprise par Frédéric Lordon lorsqu'il a fait une annonce publique comme quoi il se joignait au mouvement. Il reprenait une liste des Gilets jaunes qui demandait à ce moment-là, on était le 30 novembre, zéro SDF, SMIC à 1300 euros net, système de retraite solidaire et socialisé, pas de retraite en dessous de 1200 euros. Interdire les délocalisations, fin du CICE, fin de la politique d'austérité, mise en place d'un salaire maximum, allocation handicap réélevée, diminution des loyers, arrêt des fermetures de lignes, des bureaux de poste, des écoles et des maternités, moyens augmentés pour la psychiatrie. Je pense que cette liste de Gilets jaunes, qui était là au début du mouvement, était claire et nette. On ne parlait pas de RIC, on ne parlait pas de démocratie, on parlait de revendication d'égalité, pour avoir davantage d'égalité. Maintenant, les médias ne s'en sont pas emparés. Ils ont mis éventuellement le SMIC en avant, ce qui a été repris par l'État à minima. Par contre, dès qu'il y a eu la question du référendum, là, les médias, voilà, ont trouvé un os à ronger, ou ont trouvé quelque chose qui leur semblait intéressant à mettre en avant, et ça a été mis en avant. Et du coup, les Gilets jaunes se sont dit, je pense, tiens, on a quelque chose où on parle de nous dans les médias, et tout le monde s'est un peu mis à défendre cette question du RIC, qui est pour moi aussi une question centrale malgré tout, mais elle n'est pas la seule question. La question des solidarités, évidemment, est essentielle et continue à travers les mouvements des Gilets jaunes, comme l'expliquait à travers des Gilets jaunes qui vont auprès des SDF, qui vont donner à manger, qui vont les aider. Il y a des actions comme ça qui se font un peu partout en France, pour montrer cette solidarité et montrer ce besoin de vivre ensemble et de s'entraider, tout simplement.
Bah, moi, c'est juste, tu vois, dans la liste que tu as citée, je trouve que ça montre bien l'intérêt des Gilets jaunes, enfin, la lutte pour la justice sociale, contre la paupérisation des populations. Mais j'ai l'impression, dans la question qui a été posée, il y a comment on fait ressortir que toutes ces réformes, toutes ces lois, la paupérisation de la population, elle va toucher certaines catégories de personnes plus que d'autres. Que ce soit, par exemple, les femmes, où on sait qu'elles sont touchées par la précarisation et de plus en plus par chaque loi qui s'attaque au droit au travail, par les personnes des quartiers populaires, les personnes racisées. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'on a entendu là, les interventions des camarades par rapport à l'université, qui montrent bien ça, que cette réforme est injuste, mais elle est encore plus pour certaines personnes que pour d'autres, et que ça va participer à creuser un écart social. Ça, tu vois, moi, je ne l'ai pas entendu dans la liste que tu disais.
Donc, comme Clémentine, je suis à la fois étudiant et gilet jaune. Et du coup, en tant que tel, alors en fait, je pense que globalement, quand un mouvement démarre, et c'était le cas à l'époque où cette liste est parue, quand un mouvement démarre, tout simplement, il ne peut pas penser à toutes les convergences possibles. Le mouvement des gilets jaunes, une convergence, ça se construit, justement. Et ça se construit, d'ailleurs, aujourd'hui. À l'époque, non. À l'époque, oui. À l'époque, c'était notamment sur la hausse du carburant que se portait la revendication principale. Pas pour rien. Beaucoup de gens vont au travail en voiture et survivent grâce à des carburants à bas prix, tant qu'on n'a pas installé d'autres systèmes alternatifs dans les campagnes à prix réduit, voire gratuit. Difficile de reprocher cela à notre mouvement. Et pour ce qui est de la liste, il y a eu plein d'actions, mais elles ne se voient pas. Justement, comme ça a été dit, c'est très peu valorisé par les médias parce que ça ne fait pas vendre. Mais on a eu des actions dans les CAF où on va recueillir les doléances des gens. Dans les CAF, les gens qui y vont ne sont pas les gens les plus privilégiés de la société, au contraire. Et on a recueilli des dizaines de doléances comme ça à deux reprises dans les CAF de Grenoble, pas très loin d'ici. On a aussi eu des gilets jaunes qui sont venus participer aux assemblées générales qui soutiennent les étudiants étrangers face à la hausse des frais d'inscription. Il y a des solidarités, mais elles sont invisibilisées parce que je pense que, peut-être que c'est du complotisme, mais je pense qu'il y a un intérêt à ce que le mouvement des gilets jaunes soit perçu d'une telle manière et pas d'une autre. Ou du moins peut-être que ça ne fait pas assez vendre la convergence des luttes, alors du coup on préfère mettre en scène la division des luttes, et c'est bien dommage. Je pense que ça peut donner quelque chose de beau, pour peu qu'on la construise, et c'est en cours.
Alors ça, c'est tout un vaste débat quand même sur mettre en avant ou pas la convergence des luttes, ou parler des divisions. Par exemple, parler des divisions réelles entre les gens, ça peut permettre aussi de construire un nous conscient des rapports de domination interne qu'ils traversent. Donc voilà, c'est plein de débats. On a un petit reportage, mais on le passera après. On voudrait d'abord faire une petite pause musicale, parce qu'on réalise qu'il n'y en a pas eu depuis le début. Et on l'a raté, la première. Et du coup, on va faire une petite pause musicale. Ensuite, on aura un petit reportage qui dure à peu près 8 minutes, 8 minutes 40, un truc comme ça, sur justement l'évolution du discours, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Vincent, sur au départ les types de revendications et puis l'évolution de ce discours qui focalise sur certains aspects aujourd'hui. Bon, et on essaiera de creuser cette question.
Ah oui, approchez-vous. L'esquisse 3, une sale équipe au démarrage. On n'a pas le temps de faire le truc à la chasse. Je suis de retour dans le game, wesh l'équipe, quoi de neuf. C'est l'esquisse de retour pour qu'il n'y a pas de bluff. Par ici les jetons, j'ai l'esprit à 4 F. C'est M-E-N-A, les jaloux sont PZF.
6 ans après de retour, ça annonce du lourd dans les tours. M.A.R.S. pour le détour, on s'entoure et rien nous détourne. Tour à tour, ça passe le relais, le phénix de ses cendres. Pas la coupe à rader, on a tout à gagner. L'une en fait la pause, gagne, faut nous régaler.
Comme une équipe, on est solide, j'fais de l'avance, oh oui. C'est bon qu'à couvrir nos colis, savoir les quartiers mis en ligne. C'est pour que ni tout le quartier a dit oh oui.
Yeah, quoi c'est l'eau du premier régiment, on n'est pas réformé. Big up au gaz la zone et à tous ces jeunes diplômés. Pour nourrir nos familles, nous les délits, on les commet. Pour que ni tout le centre-ville est là pour les brûler.
Faut pas fréquenter, toujours les brigandés, tu te fais péter pour le peuple, t'as même pas 2 minutes de côté. On a fini menotté, les jaloux veulent pas me voir monter. À l'heure où j'écris, que j'apprends que le sang la tire à monter.
Al-Qaïda, Al-Qaïda, wesh négro, qu'est-ce qu'il y a? Je parle beaucoup qu'à l'avocat où je te fais danser le Mia. Jane, tu fais le fou, ouais je crois que t'as trop pillard. Tu finis dans un trou, je conduis le corbillard. C'est...
On est posé au quartier quand tout va mal.
Avec mon équipe, on est tous au canard.
c'est pas d'être mené contre sur le FAMAS.
Ouais. On répond présent pour Kenya Kana.
Opéra Noailles con Julien La Plaine.
Ouais.
Opéra Noailles con Julien La Plaine.
Ouais.
Opéra Noailles con Julien La Plaine.
Ouais.
Viens pas nous tester, mec, c'est pas la brise.
Les bras en l'air représentent ces coins les favoris, c'est loin des bons ou frères, c'est le centre des
zoos.
En unissant nos forces, qu'on gravit les échelons qui mènent vers le concret,
c'est le centre des zoos.
Les bras en l'air représentent ces coins les favoris, c'est loin des bons ou frères,
c'est le centre des
zoos. En unissant nos forces, qu'on gravit les échelons qui mènent vers le concret.
Quand la planète yeah. Mars s'embrase, elle t'embrasse d'un baiser mortel. CV de la tête cramée aux orteils. Vortex, centre-ville, enfant terrible. Hors pair, souffleur de rime, corvette. Plus gros fouteur de bordel, c'est nous.
L'hypocrisie est de partout. Ça me fait vibrer dès que je la touche. J'ai envie de vider des cartes, touche dessus. Cherche à saccager la paix. Chaque jour doit trouver sa clé. Vois que l'amour sous GHB, je
devais. On vient pas polémiquer, nous imiter, dominiquer. Ici tu peux te faire liquider pour des liquidités. Je leur mets dans le filon comme François. Personne te regardait comme France 3.
C'est tout pour la villa, j'vendrai la hiya. Toi t'es pas fiable, fume ma villa. J'meurs comme Alia, de la frappilla. Dans le barrio, façon Cadillac à Massilia. Aïa, c'est la mafia.
Le silence, voilà le véritable engagement. Tous des imposteurs ici bas car le langage manque. Ils confiance en ses corps, sont des comptes offshore au Panama. On veut l'atoll pour Fillon et la justice pour Adama.
No pain, no gain, I literally mean what I'm saying. Don't be mean when you play the game. When nothing else in life is a blessing.
On est posé au quartier quand tout va mal.
Avec mon équipe on est tous sous canard.
C'est pas d'être mini quand tu sors le FAMAS.
On répond présent pour Kenya Kana.
Opéra Noailles con Julien La Plaine.
Opéra Noailles con Julien La Plaine.
Opéra Noailles con Julien La Plaine.
Viens pas nous tester, mec, c'est pas la brise.
Les bras en l'air représentent ces coins les favoris, c'est loin des bons ou frères,
c'est le centre des
zoos. En unissant nos forces, qu'on gravit les échelons qui mènent vers le concret,
c'est le centre des zoos.
Les bras en l'air représentent ces coins les favoris, c'est loin des bons ou frères,
c'est le centre des zoos.
En unissant nos forces, qu'on gravit les échelons qui mènent vers le concret.
Vivre sans honneur, mon ami, nous on ne connaît pas. Comme une forte odeur d'ennemis sur le territoire. Toujours ce qu'il faut, mon ami, planqué dans l'armoire. J'fume de plus en plus, arrête trop de mémoire.
Salaire poisonné, vaccin empoisonné. Les financiers dirigent l'Est, les politiciens fanfaronnés. Ça passe zoné comme des putains de...
Donc c'était un morceau de Kenny Arcana et de, je ne me rappelle plus, c'est Vincent qui nous a ramené ce morceau. Non, c'était pas le morceau de Vincent. Bon, tant pis. On va... Voilà, on vous le dira. On va enchaîner avec un nouveau montage, enfin un reportage même, là, qui dure à peu près 8 minutes et qui va nous permettre d'entendre plusieurs discours et une évolution des discours des Gilets jaunes, justement, tout au long de ces deux mois de mobilisation, plusieurs prises de parole qui ont été enregistrées par les soins de Jeannette.
Moi, j'étais le premier jour, donc, quand ils ont fait le rassemblement des Gilets jaunes sur Espace Comboire, et puis on a défilé jusqu'au rondeau. Et moi, je suis là pour mes enfants. Je me dis que j'ai un âge où j'arriverai peut-être encore à vivre comme ça, mais la jeunesse qui arrive, non. Je ne pense pas qu'eux puissent vivre comme nous, on vit actuellement. D'autant plus que j'ai un fils qui est étudiant et qui galère énormément, et qui est plein d'interrogations, en fait. Pour son avenir et pour savoir ce qu'il allait devenir par rapport à toutes ces réformes. Parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup de réformes, même si on n'a pas beaucoup parlé des étudiants, parce qu'il n'y en a pas ici. Et puis peut-être qu'ils ont aussi d'autres choses à penser, leurs études passent avant, peut-être même leur avenir, j'ai l'impression. Quelquefois, c'est ce que je me dis pour mon fils, il pense plus à ses études aujourd'hui qu'à l'avenir. Et c'est pour ça que je suis là. Bien sûr, je suis là pour les taxes, parce que je suis hyper taxée. Hein. Je suis célibataire avec mes deux enfants. J'ai aucun droit, en fait, parce que je suis en invalidité. Je n'ai absolument aucun droit. J'ai un peu d'APL, mais rien d'autre. C'est-à-dire je paye ma mutuelle, je paye mon électricité, je paye mon eau, je paye tout comme tout le monde. Je paye même la taxe d'habitation et tout ça, je le paye avec 754 euros de mon invalidité et 154 euros de pension qu'on me verse pour mon fils, le père de mon fils. Et ben avec ça, je survis en fait. Et quand vous avez des enfants et qu'ils vous réclament des choses, et ben c'est pas facile. Moi, tout ce que je veux, c'est une vie convenable. Je veux pas être taxée. Moi, pour moi, une taxe, c'est je prends un flash aujourd'hui parce que j'ai dépassé de 2 km la vitesse. Pour moi, c'est une taxe. Parce que actuellement, voilà, ça me fait mal de payer 90 euros de PV. Quand je vois que je suis obligée de baisser mon chauffage parce que je sais que à la fin du mois je vais payer 87 euros, et ben c'est tout des tasses que moi je peux plus assumer. Et moi, c'est pour ça que je suis là. Moi, ça m'est égal que le patron, il va se faire 10 000 euros parce qu'il a beaucoup travaillé. Après, s'il a travaillé, c'est normal qu'il se fait cette somme-là. Mais moi, c'est pas normal que je paye des taxes tout le temps, parce que il faut envoyer de l'argent à telle personne, parce que malheureusement ou heureusement pour eux, il y a des migrants qui viennent et puis il faut on prend de l'argent d'un côté, on la donne à d'autres. Moi, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que de vivre décemment, moi et mes enfants. On a plein de choses dans la tête, on sait pourquoi on est là, mais on a du mal à s'exprimer, je pensais, à le dire. On n'a pas les mots pour les dire. Donc du coup, c'est vrai que quelquefois, on passe pour des, entre guillemets, pour des abrutis, hein, pour certaines personnes. Mais je pense que chaque personne qui est là, elle sait pourquoi elle est là et elle sait pourquoi elle se bat. On est des délinquants parce qu'on n'arrive pas à payer nos factures, on a des mises en demeure. Du coup, il y a plein de choses qui ne vont pas. Ça n'est pas que les taxes, c'est tout un ensemble.
Ben, j'ai pas adhéré au mouvement au départ parce que la revendication première qui était pas de taxes, je me reconnaissais pas dedans. Et puis en me renseignant un peu, j'ai vu que ça partait sur des idées beaucoup plus larges, vraiment d'une nouvelle société avec un nouveau mode de représentation, ou plutôt une absence de représentation des gens. Et quelque chose de beaucoup plus direct dans les décisions. Quelque chose de plus égalitaire au niveau de la distribution des richesses, même de carrément égalitaire, pourquoi pas. Et donc c'est pour ça que je viens me renseigner, parce que j'ai l'impression que ça, c'est des idées qui se rapprochent de ce que je pense. Le symbole des gilets jaunes est bien trouvé parce qu'il est ni bleu ni rouge, donc il est affranchi des partis politiques et des syndicats qui jusqu'à présent ont servi beaucoup à casser les grèves et à maintenir l'ordre et à maintenir le système néolibéral tel qu'il est aujourd'hui.
Ce qui nous manque pour moi aujourd'hui, c'est la capacité de faire aboutir nos luttes. C'est-à-dire les luttes, il y en a un certain nombre, peu importe lesquelles, mais à un moment donné, elles n'aboutissent pas parce qu'elles restent dans des cadres qui sont très contrôlés par l'État, le gouvernement en place, et elles n'aboutissent pas. C'est comme si elles étaient canalisées, en fait, et comme un ruisseau, on lui fait emprunter un chemin, on canalise les colères, etc., mais finalement, elles n'aboutissent pas. Pour moi, l'outil démocratique, en fait, enfin, la question démocratique, c'est comment se réapproprier un pouvoir décisionnel véritable sur ces questions qui nous préoccupent. En fait, en tant que gilet jaune, aujourd'hui, je n'ai pas, en tout cas pour moi, je n'ai pas envie de répondre pour ou contre telle ou telle lutte particulière, en fait. Je n'ai pas envie de trancher là-dessus directement, parce que je considère justement que ces questions devraient être tranchées par la population. Ma voix, en fait, n'a pas plus de valeur que la voix de mon voisin ou de l'autre ou d'un autre. C'est simplement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à trancher sur ces questions et que ce qui a été décidé par la majorité, par le peuple, en fait, est appliqué et fait loi, en fait. Du coup, je n'ai même pas, pour le moment, envie de dire je me bats pour telle ou telle cause particulière. Non, je me bats d'abord pour qu'on ait des véritables moyens de faire aboutir ces causes, en fait. Voilà. La question du référendum, il me semble que presque tous les partis, à un moment donné, en parlent sous une forme ou sous une autre. C'est un peu le, j'irais, c'est le truc qu'on est obligé de le mettre dans le programme à un moment donné pour faire miroiter que les gens auront un certain contrôle sur les élus ou sur les décisions qui seront prises après les élections. Voilà, mais on n'obtient jamais un véritable pouvoir démocratique, enfin un véritable référendum. Ou quand on essaye de le mettre en place comme en 2005, ben on se rend compte que la décision qui a été votée à la majorité par le peuple n'est même pas actée puisqu'on va à l'encontre de sa décision, par exemple pour les traités européens, c'est ce qui s'est passé, quoi.
Comment ça se fait que la réponse se formule uniquement en termes d'outils démocratiques et pas nécessairement en positionnement politique?
Mais parce que pour moi, ce serait en fait trop tôt. Le fait de formuler des revendications assez précises aujourd'hui, en fait, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on peut en parler, c'est-à-dire c'est ce qui se passe. Les gens en parlent sur les rassemblements, sur les ronds-points. Chacun, justement, essaye d'amener son éclairage, de dire, tiens, mais il y a cette lutte-là, il y a cette problématique-là dans tel ou tel secteur. Ça s'est tout à fait discuté au sein du mouvement des Gilets jaunes. Mais c'est plus que la revendication, à mon sens, qui doit ressortir comme vraiment première, c'est cette demande de récupérer un pouvoir, en fait, pour que toutes ces discussions-là ne restent pas des discussions et ne restent pas simplement des requêtes qui n'aboutissent pas, justement. Ces ronds-points, enfin symboliquement, puisque c'est pas que sur les ronds-points, mais ça reste un symbole du coup maintenant, on voit finalement comme un système parallèle en fait qui se développe, qui s'est développé et qui continue de se développer, de gens qui rentrent dans des logiques totalement nouvelles, enfin de solidarité, d'égalité, où on ne cherche pas à savoir qui tu es, enfin quelle est ta position sociale, ta couleur, enfin à un moment donné t'es juste comme tout le monde et voilà, et t'essayes de porter ta pierre à l'édifice, de construire quelque chose de plus juste, de plus simple, voilà. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'y ai vu en m'y rendant, quoi. On y retrouve justement toutes les générations d'âge confondues et aussi des personnes qui économiquement n'ont pas forcément la nécessité d'être là, mais qui sont là par solidarité. Et j'ai vraiment le sentiment que ces ronds-points, symboliquement ces ronds-points, sont des zones à défendre. On parle des fois de ZAD, mais pour moi, ces endroits sont des ZAD en fait. Pour moi, c'est essentiel de se rendre sur ces lieux-là.
Vous êtes toujours sur Kaléidoscope, l'émission micro-ondes. Alors, c'est le reportage, je crois, qui appelait au plus de discussions. Malheureusement, on est un peu débordé. Du coup, on va juste finir par un rapide tour de table. Réaction ou appel aux prochaines dates qui vous concernent, chacun et chacune, dans vos différentes mobilisations. Alors, on peut peut-être commencer par les étudiants et étudiantes.
Alors... rapidement par rapport à ce qui vient d'être dit, juste pour dire que ça fait pas forcément consensus chez les Gilets jaunes, que comme dans tout mouvement il peut y avoir des désaccords, et parler du référendum oui c'est bien, mais il faut pas oublier pourquoi on le fait, et pas oublier que si à la base on est tous dans la rue dans ce mouvement là, c'est pour des questions sociales, et que les convergences qu'on a faites, toutes, celle de la CAF dont je parlais tout à l'heure, par exemple, ou celle qu'avec Clémentine, par exemple, on a pu créer entre le mouvement étudiant contre la hausse des frais d'inscription pour les étrangers et le mouvement Gilets jaunes, qui est à la base un mouvement social, ces convergences-là, elles vont nous rapporter. Et ne pas parler que de démocratie, c'est crucial, parce que la démocratie, c'est aussi de l'économie. Et je terminerai, en les 15 secondes qui me restent, en vous appelant à venir à l'Assemblée Générale étudiante le 8 janvier, à midi, dans la Galerie des Amphis, pour continuer cette convergence et à venir tous les dimanches, à midi, rue du Vieux-Temple, pour faire les AG Gilets jaunes, parce que les mouvements se complètent, et ce serait bien comme ça.
Moi, je voulais juste rectifier, c'est 11h le dimanche, de rue du Vieux-Temple, en effet, pour les AG, où moi, j'invite en effet à la coalition des luttes, et donc à nous rejoindre pour discuter justement de toutes ces questions sociales. On attend tout le monde, les bases syndicales, les quartiers, les étudiants lycéens qui sont déjà présents, les féministes qui sont déjà également présentes, les écologiques, les anticapitalistes, les altermondialistes, les collapsologues qui ont également fait un détour une fois par notre AG, et tous les mouvements progressistes, quels qu'ils soient. Et si on est nombreux, si on est des millions dans la rue, alors là, la question de la violence sera différente. La violence policière ne pourra pas s'exercer s'il y a 3, 4, 5 millions de personnes dans la rue. Et dans ce cas-là, on aura un rapport de force qui sera évidemment totalement différent et on n'aura plus les mêmes sujets de discussion. Et là, on pourra parler de l'après.
Moi, malgré l'essoufflement de la lutte lycéenne, je rappelle qu'elle a autant sa place que toutes les autres luttes, qu'elle est primordiale comme les autres luttes dont on a parlé, parce que c'est vraiment important. Et malheureusement, on attend la reprise des cours pour voir l'évolution de cette lutte et comment ça va s'organiser. Mais je pense qu'avec le mouvement Gilets jaunes et les mouvements étudiants qui sont en place, on a moyen de réussir à faire quelque chose de bien et qui pourrait fonctionner.
Voilà, alors l'émission Micro-ondes touche à sa fin. Clémentine, est-ce que tu voulais rajouter un mot de fin aussi ?
Eh bien, redire un petit peu la même chose que ce qui a déjà été dit, mais il ne faut surtout pas qu'on soit divisé. La lutte, on la gagne ensemble. On la fait ensemble et on la gagne ensemble. Voilà.
Merci. Donc, l'émission Micro-ondes qui revient tous les premiers dimanches de chaque mois. La prochaine émission sera le dimanche 3 février et portera principalement sur Ralfron. On vous en dira plus le 3 février, mais je crois que Yvon, tu as quelque chose à nous annoncer d'ici là avec oui. Ralfron.
Pour Ralfron, en effet, il y a, comme chaque année au mois de janvier, il y a une initiative très importante puisqu'il y a une quarantaine d'associations, il y a beaucoup de monde qui passe. Là, ce sera le 12, donc dimanche, je ne sais même pas si c'est un dimanche, je crois que c'est un samedi, le 12 janvier, à partir de 15h jusqu'à 22h, avec deux personnes qui viendront s'exprimer. L'une, c'est Hugo Paletta qui a écrit un livre récemment, La possibilité du fascisme. Et puis d'autre part, Claire Rodier qui vient d'écrire, de refaire un livre qui s'appelle Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. Donc ça commence à 15h le 12.
Merci.
À Voiron, j'ai oublié.
Alors, l'agenda aujourd'hui est plutôt rapide. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les luttes sur différents sites. Et ensuite, on passera au bref. Rendez-vous sur le site de cric.info. Le site du Centre Interpeuple d'Information Interpeuple Grenoble, CIIP.fr. Ou encore le site du TAMI, où vous retrouverez l'émission en podcast.
Jean aussi, la page Facebook Mouvement contre la hausse des taxes Grenoble, c'est le Facebook des Gilets jaunes de Grenoble.
D'accord, merci. Et d'ailleurs, une petite nouveauté micro-ondes, il y a aussi une page Facebook micro-ondes dorénavant qui a juste démarré hier, donc il va falloir attendre un peu pour avoir les infos dessus. Vous la retrouvez sur Facebook, émission micro-ondes Radio Kaléidoscope 97FM. Et on va donc maintenant passer les quelques brèves que nous avons.
On est mardi 18 décembre et il y a donc un mouvement donc, au national hein, de tous les organismes de sécurité sociale pour défendre notre service public, même si les salariés ne sont pas fonctionnaires qu'on relève du droit privé. Mais par contre, on a une mission de service public et on gère des fonds publics. Et en fait, aujourd'hui, on appelle et les salariés et les assurés et les allocataires à se regrouper, à défendre à la fois qu'on ait des moyens en termes d'emploi, des moyens aussi pour les prestations. Donc le premier problème, c'est que petit à petit, on va mettre de plus en plus d'ordinateurs en fait et de machines dans les accueils et de moins en moins de personnes pour accueillir le public. Donc ça peut fonctionner, on va dire le CAF.fr ou Amélie, ça peut fonctionner pour une partie du public. Mais derrière, il y a une réelle problématique de non-recours aux droits pour toute une catégorie de population qui n'est pas à l'aise avec ces outils-là. Ensuite, ce qu'on dénonce, c'est les conventions d'objectifs et de gestion qui sont la réelle mise en place d'une politique d'austérité en fait pour nos organismes. Et puis, on dénonce la casse du financement des organismes de sécu parce que ce qu'on ne dit pas aux gens quand on leur supprime les cotisations sociales, c'est qu'en fait, on supprime des fonds affectés à la sécurité sociale et qu'en fait, notre système de sécu à la française, en fait, c'est la base de la répartition des richesses. Et quand effectivement, le Conseil national de la Résistance et Ambroise Croizat ont mis en place la sécurité sociale. Tout le monde cotise selon ses moyens, mais reçoit en fonction de ses besoins. Et en fait, c'est ces principes-là qu'on veut défendre. La solidarité, et puis l'universalité des prestations, et puis tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les sécurités sociales existent, mais sont attaquées. Elles sont attaquées parce que on répartit les richesses à la base. Voilà. Nous, de toute façon, tout ce qui correspond à un mouvement social avec des revendications qui font on défend les plus fragiles et qu'ensuite on se bat pour les droits, pour qu'il y ait effectivement des systèmes démocratiques qui soient respectés, mis en place et défendus. Nous, on ne peut être que pour. Donc effectivement, c'est important d'être ensemble sur ces moments-là et d'échanger.
Alors là, on va faire un petit retour sur une audience très spéciale qui a eu lieu au tribunal administratif de Grenoble en novembre dernier, où Maître Costa a dû plaider à peu près 135 dossiers de recours d'AO Alors, pour resituer un peu, qu'est-ce que c'est qu'un DAO? Un DAO, c'est un droit à l'hébergement opposable. En fait, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans la loi, toute personne sans abri ou en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Les gens à la rue peuvent appeler le 115 qui doit leur proposer une solution. Or, des solutions, il en est très peu proposé, il n'y en a pas, il manque de place. Du coup, le 115 se retrouve à faire du tri entre les gens, se retrouve à prioriser des situations. C'est trop limité par rapport au nombre de personnes qui sont à la rue. Le 115 à Grenoble, comme beaucoup de 115 au niveau national, sont souvent en mouvement de grève, mais tout le monde s'en fout. Alors face au refus de proposition, la personne à la rue, elle, peut faire valoir ce qu'on appelle un DAO, un droit à l'hébergement opposable, en saisissant une commission de médiation qui est, elle, sous la responsabilité de la préfecture et qui devra faire une proposition d'hébergement. Mais là encore, en Isère, la grande majorité des saisines à la commission de médiation sont refusées avec des arguments complètement fallacieux. Là, l'intéressé, du coup, face au refus du DAO, peut faire une saisine, cette fois au tribunal administratif, avec un avocat ou pas, pour que la commission de médiation revienne sur son refus. Et pour que le tribunal somme la commission de médiation à proposer une solution. En fait, c'est comme ça que depuis 2016, des personnes à la rue, via notamment Maître Costa, ont saisi le tribunal administratif. Et ce dernier n'avait jusque-là pas donné suite au recours, qui arrivait pourtant de manière très régulière depuis plusieurs années. Mais en novembre dernier, le tribunal administratif a proposé une audience pour traiter pas moins de 135 dossiers d'un coup. On va écouter Maître Costa réagir juste à la sortie de l'audience.
De mon point de vue, c'est une satisfaction d'avoir pu évoquer de façon individuelle les différents cas, même si on a été plus vite sur certains que sur d'autres. On a quand même déjà obtenu de pouvoir discuter de chaque situation, de pouvoir évoquer chaque cas individuellement, et on a échappé à l'effet tir groupé. Donc ça déjà pour moi, c'est une satisfaction parce que ça permet de réhumaniser les choses, puisque ma principale crainte, c'était qu'on se retrouve face à une audience totalement déshumanisée alors qu'on est au cœur de problèmes qui sont véritablement au cœur de l'humanité, de ce que devraient être nos aspirations et ce qui doit nous toucher tous et chacun en tant qu'être humain. La difficulté, c'est que la commission de médiation de l'Isère a fait un peu n'importe quoi avec les textes et elle s'est cachée derrière des motifs qui soit ne correspondait pas à la loi, soit ne correspondait pas aux situations de fait, pour justifier une situation qui est une situation de refus quasi systématique. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis en avant, pas que l'aspect juridique, mais aussi l'aspect statistique, de rappeler que la commission de médiation de l'Isère est celle qui fonctionne, à mes yeux, le plus mal en France, puisque c'est celle qui a les statistiques les plus pourries, puisqu'ils arrivent à 12,5 de décisions favorables, alors que la moyenne nationale est à 51%, et que d'autres départements, selon les années, sont entre 70 et 100%.
Alors, ce qui paraissait positif le jour de l'audience, notamment l'argumentaire de Maître Costa, qui a largement mis en lumière que la commission de médiation motivait les refus par des trucs soit faux, soit illégaux. En tout cas, c'était clair que l'objectif était de rejeter les dossiers et que la juge pouvait agir en faveur des personnes. Bah, en fait, ce qui paraissait positif n'a en fait pas produit grand-chose. On a eu Maître Costa au téléphone, là, qui est consterné par les retours du jugement. La lutte juridique, alors même que les droits des personnes ne sont pas respectés, semble pas faire le point sur la lutte politique, elle, qui rejette toujours plus les pauvres et trie les populations et refoule notamment plus les étrangers sans papier. Bref, c'est pas gagné. Et, on sera vigilant. Maître Costa fera bientôt une information sur la situation. Et en attendant, la lutte politique, elle, doit continuer.
Grenoble, 18 décembre 2018, journée mondiale des migrants. Une association grenobloise femme maghrébine s'est donné rendez-vous place Notre-Dame à 14h pour lancer une marche de soutien.
Nous marchons en mémoire des dizaines de milliers de femmes, hommes, sur les routes de la migration victime des frontières et des politiques anti-migratoires. Nous marchons pour en finir avec ces morts, pour la liberté de circulation et la fermeture de centres de rétention. Nous marchons aujourd'hui contre l'idée que l'immigration crée le dumping social. Nous marchons pour la ratification par la France de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, adoptée par l'ONU le 18 décembre 1990 et qui vise à garantir l'égalité de traitement entre travailleurs français et immigrés. Nous dénonçons la précarisation générale, la remise en cause des acquis sociaux par les politiques d'austérité menées par nos gouvernements qui nourrissent les sentiments de mal-être et de repli sur soi dans la population. C'est en luttant ensemble que nous pourrons nous battre efficacement pour une société meilleure et égalitaire. Ces migrants qui ont traversé les déserts, les montagnes, les mers, qui ont connu 1000 épreuves pour arriver chez nous. Ils arrivent finalement dans cet Eldorado pour se voir expulsés. Il y a une centaine par jour en France qui est expulsée. Alors aujourd'hui, on manifeste et on marche contre les expulsions pour la liberté de circulation, pour la régularisation des sans-papiers, contre le dumping social.
17h30, place de Verdun, toujours dans le cadre de cette journée mondiale des migrants, un nouveau cortège se prépare avant une marche des Lumières jusqu'au Jardin de Ville. C'est une marche pour l'égalité des droits, qui répond à l'appel de collectifs de sans-papiers, de migrants, de syndicats et d'associations, dont la coordination iséroise de solidarité avec les étrangers.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale des migrants, comme tout le monde devrait le savoir. Et dans plein de villes de France et d'ailleurs, il y a une marche aux Lumières. Alors à Grenoble, on a décidé de faire une marche aux Lumières. Ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a préparée collectivement, avec des collectifs de sans-papiers, avec le Patio Solidaire, avec la Ruget, avec des endroits où des gens sans-papiers, non reconnus ici, qui n'ont aucun droit à vivre et survivre souvent. Et beaucoup d'associations. Donc on était 55 syndicats, partis, associations à appeler. Et les chiffres de la manifestation seraient autour de 600 à 700 personnes. Donc c'est pas si mal pour un soir. On est plutôt content du résultat. Pour nous, c'est une étape dans notre lutte. Hein, parce que tant qu'il y aura des gens qui dorment dehors, et dans cette ville, il y en a beaucoup encore, beaucoup trop, on ne pourra pas se taire. Tant qu'il y aura des gens qui seront privés de tous les droits, y compris celui d'avoir un toit, d'avoir du travail, d'avoir des papiers, de pouvoir vivre exactement comme ils veulent, eh bien, effectivement, on sera dehors, on sera dans la rue, on sera avec eux sur des actions concrètes. Cette semaine, il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui devraient avoir un certain impact. On se bat, par exemple, pour un arrêté qui serait pris par les villes, comme ça a été fait dans le Nord et en Seine-Saint-Denis. Un arrêté qui empêche que les gens soient mis à la rue. Ça s'appelle un arrêté anti-remise à la rue. C'est-à-dire que même s'il y a un jugement d'expulsion, les maires peuvent décider de laisser les gens à l'abri. Et c'est vraiment, vraiment important. On a eu cette semaine un bébé qui a failli mourir d'hypothermie, sous un pont à Grenoble, là. Donc il a été recueilli par des gens aussi pauvres que sa famille. Donc c'est assez extraordinaire. La solidarité, ça c'est très très chouette. Mais on n'excuse rien de l'État et des collectivités territoriales et de la métro ici. C'est pour ça qu'on y va vendredi matin d'ailleurs en colère. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens dehors dans une ville riche comme les Grenoble. Et on ne peut pas laisser les gens et les bébés mourir comme ça simplement parce qu'ils sont mal nés. Ils ne sont pas nés riches, c'est tout. Donc c'est un vrai scandale et on est assez remontés.
Bonsoir, on est là pour vous dire qu'on a besoin d'un toit, on est sans toit. On veut les papiers pour tout le monde, sans exception, on n'est pas là pour rien. On veut un toit, sérieusement, on est vraiment rejetés, vous m'entendez ou pas? On est vraiment rejetés, on est sans toit, on est avec des enfants là. Mais c'est trop pour nous, on ne peut pas vivre comme ça, hein? Ah, c'est l'hiver, on est en plein hiver là. Surtout, il faut parler, d'accord?
La soirée s'est terminée au Jardin de Ville avec des prises de parole pour réaffirmer la détermination à lutter partout contre la montée des nationalismes, des racismes, des fascismes qui s'étendent sur l'Europe et sur le monde et qui s'incarnent ici comme partout dans des politiques violentes à l'égard des migrants.
Le front contre les expulsions en septembre 2018.
En invitant largement le plus possible d'associations, de collectifs, de syndicats et de personnes en situation d'expulsion. Parce qu'on faisait le constat que chacun, un peu dans son coin, galérait avec des problèmes d'expulsion ou accueillait des personnes qui étaient menacées d'expulsion. Et on avait le sentiment, notamment avec le passage de la loi Elan, donc qui allait faciliter les expulsions locatives, qu'il fallait réagir et montrer aussi qu'on ne se laisserait pas faire. Et du coup, il s'est constitué autour de deux objectifs. Visibiliser le fait qu'il y ait des personnes qui se fassent expulser à Grenoble et en Isère. Et donc s'y opposer de manière, la manière la plus large possible, un peu avec les moyens à notre disposition. Donc voilà, rendre ça visible, également être présent le jour des expulsions. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était d'obtenir un arrêté anti-mise à la rue de la part des pouvoirs publics, donc collectivités locales, mairies, métro et tout, préfecture, afin que personne ne soit expulsé sans relogement. Voilà, suite à ça, on a mené une campagne d'affichage dans toute la ville. On a reçu beaucoup de personnes en permanence menacées d'expulsion. Et donc, on a commencé à se mobiliser vis-à-vis de la métro. On est allé dans le hall pour lire un communiqué en octobre et on a obtenu 3 rendez-vous de suite avec des élus métropolitains en charge du logement et de l'hébergement. Et au bout de ces 3 rendez-vous, il y a eu 3 refus nets et précis. En gros, la métro ne prendra pas d'arrêté anti-mise à la rue. Nous ne relogerons pas les familles mobilisées et en plus de ça, on demandait également une intervention en urgence sur le terrain Courtade dont les familles sont menacées d'expulsion sans relogement, les 20 familles. Donc sur ces 3 sujets, on n'a absolument pas été reçus et donc on continue à se mobiliser notamment au conseil métropolitain de vendredi prochain, le vendredi 21 décembre, où du coup les 49 maires de toutes les communes de la métro seront présents pour leur dire de prendre des arrêtés anti-mise à la rue, parce que c'est un pouvoir du maire en tant qu'officier de police en fait, de pouvoir prendre ces arrêtés-là. Et évidemment, les solutions en face, on les dit depuis des années, mais c'est la réquisition des logements vides et puis c'est tout.
Alors le rendez-vous à la métro, il a vraiment eu lieu. Hein. Il y a une 20aine de personnes qui sont allées à la métro, 3 personnes qui ont pris la parole au début du conseil de métro. Ça devait prendre 10 minutes, ça en a pris 25. C'est rien passé de spécial, sinon de dire qu'il fallait peut-être y réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Bon, voilà, donc très peu de réponses, on ne va pas s'attarder sur les résultats de ce rendez-vous à la métro. Par contre, il a été abordé notamment la question de Courtade. Yvon, tu enchaînes sur une brève sur Courtade, toi, du coup.
Oui, Courtade, c'est un terrain qui est à Fontaine, où sont des familles roms depuis 3 ans. Et c'est un terrain qui fera l'objet d'une opération d'aménagement, mais pour l'instant, l'opération ne démarre pas, donc il n'y a pas de souci en théorie pour les personnes qui sont sur place et qui ont construit des cabanes. Mais la mairie, tout d'un coup, a décidé d'expulser ces personnes au prétexte qu'il y a des dysfonctionnements, qu'il y a des problèmes autour de ce camp, problème que, excusez-moi, que chacun conteste. On parle de trafic d'armes, de trafic divers, etc. Choses qui relèvent purement et simplement du mensonge du maire de Fontaine et qui ont été reprises par le conseil municipal sur la bonne foi du maire. Alors tous les clichés y sont passés, sans preuve. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de main courante. Nous, les associatifs, parce que j'en fais partie également, on sait quand même ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Et le maire reste sur sa ligne, à savoir un procès qui aura lieu mercredi prochain. Alors quand je dis prochain, c'est le 9, à partir de 8h45. Tout le monde est bienvenu pour protester contre cette punition collective. Quand on a un problème sur un immeuble, un problème du style trafic divers, jamais on a vu une expulsion collective avoir lieu, surtout sans preuve. Quand il s'agit de Rome, ce truc-là, ça arrive. Et ça s'appelle la discrimination raciale, monsieur le maire. Voilà. Donc la ficelle est vraiment grosse. Et dans ce recul des valeurs à Fontaine, face aux valeurs d'extrême droite, c'est quand même malheureusement que la mairie de Fontaine n'est pas un cas isolé. On le voit dans plusieurs mairies. C'est triste à dire. Donc, appel à soutien le mercredi 9 janvier, 8h45, devant le tribunal de grande instance. Et j'arrête là parce que je crois qu'on est très court.
Merci Yvon. Il nous reste quelques petites minutes qui vont nous permettre de pouvoir conclure un peu plus proprement que prévu. Et du coup, on propose à Vincent de reprendre la parole pour rajouter quelques petits points.
Oui, merci. Je voulais juste rappeler un petit peu l'origine de ce mouvement et en tout cas ce qui nous anime. C'est une colère, une réelle colère contre l'injustice, la pauvreté, la précarité. Un ras-le-bol des privilèges, du mépris et de l'arrogance des classes dirigeantes. On se sent insulté par les petites phrases de Macron. Les mensonges de Hollande, mon ennemi c'est la finance, et les discriminations de Sarkozy et son nettoyage au Karcher. Ce qui est insupportable, car immoral et injustifiable, ce sont les écarts de richesse, les parachutes dorés, l'évasion et, l'optimisation fiscale, les salaires indécents, trop bas ou trop hauts. Et la liste est longue. On pourrait parler du logement, des inégalités hommes-femmes, des discriminations en tout genre, du racisme, du manque de moyens pour les hôpitaux, l'éducation nationale, la justice, les EHPAD, bien sûr, et la façon dont on traite nos personnes âgées. Le comportement de la police également avec les jeunes en banlieue, par exemple. Il ne faut pas l'oublier. Bref, on demande plus de solidarité, remettre de l'entraide et de la bienveillance au centre des rapports humains. Merci.
Merci Vincent pour cette conclusion parfaite. On se retrouve le dimanche 3 février, micro-ondes de retour, pour une émission sur Ralfron, suite à la journée du 12. Voilà, une petite musique pour terminer et on se dit au mois prochain.
Au revoir et merci encore à nos invités.
Au revoir et puis il y a un podcast toutes les semaines, je crois, là, sur l'émission, ou pas?
Bah, le podcast bientôt, vérifiez tous les jours, dans les jours à venir, ça va venir. Voilà.
On défend le vivant et le gouvernement nous attaque. Vos médias nous boycottent et nous font passer pour des macaques. Car on refuse le dressage assis couché debout dans la patrouille. On a des choses à dire et des vraies idées à défendre. Institutions racistes, je perds le monde depuis ma naissance. Libre penseuse comme Yanis dans une industrie indécente. Pour les frères restés sur le parvis, pour les sœurs en quête de vrai sens.
Écoutez-nous,
avant que le dialogue soit annihilé. Sais-tu ce que c'est grandir dans les inégalités? Tu sais la frustration prend forme et les rêves brisés transforment. Les ex-rêveurs en braqueurs ou mecs radicalisés.
Chaque jour que Dieu fait de devoir, je découle. Je suis décidé, je mets idées, quoi qu'il en coûte. Je viens poser, faire exploser un système qui me dégoûte. Il nous pousse à bout, et il nous roule dans la boue. Le tout pendant qu'il s'accoule, nous
ça craque dans la
foule. Nos voix on bafoue, pendant qu'on s'écroule sous les coups. Garde à vue, garde à vous, get your youth, écoutez-nous. Je vais pas te détailler tout ce qu'on subit comme misère. La liste est trop longue, on en aurait pour l'hiver. Mais s'asseoir à croire sur un homme, monsieur le commissaire. Quand tu n'appelles pas ça une bavure policière, alors écoutez. C'est comme ça on peut se passer de vous. Alors écoutez-nous. On vous prévient que la jeunesse est
pour vous.
Vous faites parler. Écoutez-nous, on veut pas de votre armée. En bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait parler. Si on déboule chez vous, vous faites parler. Écoutez-nous, on veut pas de votre armée. En bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait parler. Si on déboule chez vous.
Et toi dis-moi ce que tiens pour si la police tape et dépouille. Tu parles de justice en franc mais à vue d'œil on s'en fout. Combien de jeunesse en tension, combien de révoltes que l'on étouffe.
On a quoi se poser des questions sur l'état de nos conditions. Le peuple est à l'abandon et ce n'est pas qu'une simple impression. La morale, longtemps qu'ils en font abstraction, vont à l'inverse de leur fonction. Terrorisent la nation, ce n'est pas normal.
Encore combien de générations humiliées, pointées du doigt mais en quête d'élévation. En pleine dégénération,
on continuera nos actions tant qu'il y aura de l'exaction. Kenny donne la conclusion, ça va.
Faites que parler,
écoutez-nous, on veut pas de votre armée en bas de chez nous. coucher pour vous quelque part. Écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée.